RTL Info.
Le journal de Jean-Paul Pitchy.
Bonjour, un concept novateur pour trouver une solution au manque de places d'amarrage pour les bateaux dans la région. Un projet de port à sec qui est en gestation du côté de Corneau, sur les bords du canal de la Thielle. Une telle installation offre de nombreux avantages selon ses promoteurs. La gestion de la cité des étudiants par une société vaudoise fait des vagues jusqu'au Grand Conseil. Le groupe socialiste reproche au gouvernement d'avoir mis fin à une success story en retirant le mandat à la société Alphen en main des étudiants neuchâtelois. Le FCC reprend le chemin des terrains cet après-midi avec 4 nouveaux joueurs. Pour l'entraîneur Christophe Cachilli, le transfert de choix se nomme Bertrand Nzomo, un joueur très athlétique et expérimenté qui jouait au FC Le Mans en Challenge League. Temps instable et humide au programme du jour, des averses et orages localement forts vont s'abattre en toute région cet après-midi et se poursuivront ce soir et cette nuit. Il fera plus frais avec 19 à 23 degrés. Pas simple de trouver une place d'amarrage pour son bateau dans la région. Dans le canton de Neuchâtel, il manque entre 300 et 800 places de stationnement dans les ports du lac. Partant de ce constat, un groupe de promoteurs a lancé l'idée de construire un port à sec qui prendrait place à Corneau, sur les bords du canal de la Thielle, dans la zone appelée Abujon. Le projet prévoit 350 places pour bateaux à l'année, à louer ou à vendre, mais exclut les voiliers pour des questions de gabarit. Un port à sec offre de nombreux avantages, selon Andrea Pellati, architecte en charge du projet.
C'est une grande halle de stockage avec un atelier nautique, donc où on pourra assurer l'entretien annuel du bateau, les réparations éventuelles si nécessaire, ce qui représente de nombreux avantages par rapport à un stockage dans un port standard, donc en eau.
Quels sont ces avantages justement ?
Alors, l'avantage essentiel est que les frais sont fortement diminués, donc on n'a pas les frais d'antifouling, les déprédations dues aux ultraviolets, donc au soleil, les usures de bâche, les usures de la coque aussi, et puis au niveau de l'hivernage aussi, on n'a pas besoin d'hiverner le moteur, car là, elle est tempérée. Donc, il y a beaucoup de frais qui sont diminués. Également, les risques de déprédation, par exemple, les gens qui vont dormir dans les bateaux, qui ne leur appartiennent pas, les détériorations aux bâches ou à ces choses-là.
Est-ce qu'il y a également des avantages au niveau de l'environnement, de sortir ces bateaux de l'eau ?
Oui, alors, les bateaux à moteur sont quand même un risque pour l'environnement quand ils sont stockés dans un port en eau. Donc là, l'avantage étant à l'extérieur de l'eau, toutes les eaux seraient filtrées, donc les eaux d'entretien seraient filtrées.
Des discussions avec le canton, propriétaire du terrain, et la commune de Corneau sont actuellement en cours. Les promoteurs du port à sec vont également consulter les associations de protection de la nature avant de mettre le projet à l'enquête. Dans l'idéal, ils espèrent l'ouverture du port à sec au printemps 2019. Dans notre journal de ce soir, Andrea Pellati nous dira pourquoi Corneau est l'endroit idéal pour accueillir une telle installation. La gestion de la cité des étudiants s'invite au Grand Conseil neuchâtelois ce matin. Le groupe socialiste a déposé une interpellation qui interroge le gouvernement sur sa décision de confier la gestion de la cité des étudiants à Facilitim en lieu et place d'Alphen. La société neuchâteloise, créée par la Fédération des étudiants neuchâtelois, a pourtant, selon le PS, géré les logements d'étudiants avec succès pendant 10 ans. La décision de confier la gestion à une société vaudoise déçoit le président du groupe socialiste. Spécialiste au Grand Conseil, Baptiste Turny.
Oui, on a été déçus parce que la société Alphen SA, qui aujourd'hui gère encore la cité des étudiants, c'est une société anonyme, mais qui appartient aux étudiants neuchâtelois, qui a but non lucratif, qui a fait beaucoup dans ce canton. Elle a rénové et racheté la tour des Cadoles, elle a augmenté l'offre de logements étudiants. On sait qu'il y a une crise, qu'il y a un manque, que les nouveaux logements qui viennent sur le marché sont chers parce qu'il y a des envies de rendement. Ce n'était pas le cas d'Alphen. Et puis finalement, Alphen a suppléé ce que l'État aurait dû faire ces dernières années. Et aujourd'hui, pour seul remerciement, mais on a l'impression qu'on lui dit passez plus loin, nous confions ça à une société privée vaudoise qui, j'en suis sûr, ne vient pas pour faire des bonnes œuvres.
On a l'impression, puis vous l'avez dit ce matin aussi, on a l'impression que c'est la fin d'une success story à la Neuchâteloise.
Oui, et c'est ça qui est triste. On critique souvent ce canton en disant que beaucoup de choses ne vont pas. Et c'est vrai, c'est aussi pour ça qu'on va au Grand Conseil, c'est pour essayer de faire que les choses s'améliorent. Mais là, on a un acteur privé, on a des étudiants neuchâtelois qui ont pris le destin de leur logement étudiant en main. Et puis, aujourd'hui, on casse tout ça pour on ne sait pas très bien quoi, finalement.
Baptiste Turny au micro d'Adrien Juvet. Le Conseil d'État donnera sa vision des choses sur le dossier lors de la prochaine session qui se tient en septembre. Enfin, le Parlement a également rendu un hommage appuyé à l'huissier du canton. Pierre Monnier a pris sa retraite ce matin. Portrait du personnage à retrouver sur rtn.ch. Un praticien roman a été autorisé à filmer ses patientes lors d'examens intimes. Selon les informations de la RTS, cette vidéosurveillance a été mise en place à la suite d'accusations d'abus sexuels à son encontre. Ce médecin travaille en cabinet privé dans le canton de Neuchâtel. Il conteste les faits et entend prouver par ses vidéos qu'il agit correctement. Tant la Société neuchâteloise de médecine que la FMH condamnent le procédé. Dans un hôpital public, ce serait interdit. Le spécialiste a pourtant reçu l'accord du médecin cantonal. Ce dernier se refuse à tout commentaire dans l'attente du procès prévu au mois de septembre prochain. Verdict cet après-midi dans l'affaire du braquage de la bijouterie Bonnet à Neuchâtel qui a été commis en juillet 2015. Trois hommes doivent répondre de brigandage aggravé. Le procureur requiert des peines allant de 4 ans et demi à 6 ans de prison. On y reviendra dans notre journal de 18h. Les radios privées de Suisse romande diffusent en moyenne deux fois plus d'informations régionales que leurs consoeurs alémaniques. Selon une étude de Publicom réalisée auprès des 37 radios concessionnées en Suisse, les stations romandes remplissent davantage le mandat qui leur est confié par la Confédération. Dans le détail, RFJ figure en tête du classement des radios qui diffusent le plus d'informations régionales avec 53 minutes par jour. RTN et RJB se situent dans la moyenne supérieure avec près de 40 minutes. Sans surprise, la station musicale Griffe ferme la marche. L'étude souligne aussi que les informations sont mieux mises en contexte en Suisse romande qu'en Suisse alémanique et au Tessin. Le français n'est pas assez respecté dans la planification de l'A5 à Bienne. Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne et le Forum du bilinguisme ont reçu une dizaine de plaintes de citoyens qui se plaignent de la communication du chantier qui se fait trop souvent uniquement en allemand. Les deux institutions ont pris contact avec le département fédéral des transports et la direction des travaux publics du canton de Berne pour trouver une solution. Les entreprises auront moins de facilité à recourir au chômage partiel et ceci dès le 1er août. En raison du développement économique positif en Suisse, elles ne pourront indemniser leurs collaborateurs touchés que durant 12 mois au lieu de 18. Décision prise ce matin par le Conseil fédéral. Pour la police, les réseaux sociaux sont des alliés parfois incontrôlables. Grâce à Facebook et à Twitter, les autorités peuvent communiquer efficacement en cas de crise, mais elles doivent aussi composer avec les publications des autres utilisateurs. Or, celles-ci peuvent créer des difficultés qui font l'objet du forum annuel de la Fédération Suisse des fonctionnaires de police, aujourd'hui à Berne. Le chef suppléant de la police judiciaire fédérale rappelle que toute publication n'est pas opportune. Yanis Calandré.
En effet, on peut bien imaginer qu'il n'est pas agréable pour des gens de découvrir sur des photos, des messages dans les réseaux sociaux qu'un de ses proches a peut-être été touché par l'événement. Donc il y a un certain degré d'information à communiquer, mais un certain autre degré d'information à ne pas communiquer, à préserver pour pouvoir le communiquer d'une façon différente et pas choquer ou créer des risques aussi, notamment pour les fausses interventions. Si on diffuse un certain nombre d'images d'interventions en cours, ces images peuvent être aussi vues par les auteurs, ce qui peut leur donner une information sur la mise en place de dispositifs de l'intervention et donc créer des dangers pour les forces d'intervention ou les tiers qui seraient présents aux alentours.
Les autorités doivent dès lors chercher à maîtriser le flux de messages. Nicolas Garrier, chef du bureau média de la Gendarmerie nationale française.
C'est tout effectivement un enjeu de sécurité des opérations. C'est quelque chose que nous prenons en compte. Mais aujourd'hui, c'est justement dans les messages que nous diffusons. Si vous faites des retours d'expérience sur tous les attentats qui ont eu lieu en France, que ce soit en France, en Belgique d'ailleurs ou dans d'autres pays européens, très rapidement, les forces de sécurité diffusent des messages pour dire aux gens, bon, il se passe quelque chose, ne gênez pas les opérations en cours, ne propagez pas des rumeurs, ne diffusez pas des vidéos ou des photos choquantes. Donc ça, aujourd'hui, on est plus dans l'appel au civisme de la population que de la censure.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Jérôme Favre. Lors du forum, il a été relevé que pour être efficace, la communication sur les réseaux sociaux doit toucher une large partie de la population, raison pour laquelle la police doit veiller à l'attractivité de ses comptes. Dans le reste de l'actualité, le Conseil d'État valaisan ne veut pas d'un centre de requérants d'asile à Martigny ou à Tourtemagne, comme le souhaiterait la Confédération. Le gouvernement estime que le site de Dailly, dans le canton de Vaud, est le mieux adapté. Il souligne que la commune de Martigny recense déjà 30% de population étrangère, tandis que Tourtemagne est une petite commune agricole de moins de 1000 habitants. L'héroïne n'a plus la cote dans le canton de Vaud, selon une étude inédite. Alors que son prix a drastiquement baissé ces 20 dernières années, sa consommation reste limitée. Le phénomène est toutefois pris au sérieux. Entre 140 et 200 kilos d'héroïne seraient consommés chaque année dans le canton de Vaud. Le marché génère, selon cette étude, un chiffre d'affaires d'environ 10 millions de francs. Le mythe d'un secteur juteux qui brasse des centaines de millions semble donc s'effondrer. À l'étranger, coup de filet contre deux possibles djihadistes européens. 6 membres présumés de l'organisation État islamique ont été arrêtés aujourd'hui en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne. Ces arrestations ont eu lieu dans le cadre d'une enquête espagnole sur des individus cherchant à recruter pour le compte de Daesh.
RTN midi 25.
Sport. La ville de Genève a été sélectionnée pour accueillir les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup de tennis de 2018 à 2020. Les deux compétitions seront disputées en même temps à Pal Expo dans une salle qui pourra contenir plus de 18 000 spectateurs. La Fédération internationale de tennis a choisi Genève au détriment de Copenhague, Miami, Istanbul, Turin et Wuhan. Richard McLaren, auteur d'un rapport explosif sur le dopage en Russie, publié en 2016, estime avoir de nouveaux indices graves sur des cas dans le monde du football russe. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui dans une interview à la chaîne de TV allemande ARD. Selon lui, des échanges de mails entre hauts responsables russes de 2015 laissent entendre que des échantillons d'urine positifs ont été remplacés par des échantillons propres. Le FC La Chaux-de-Fonds repart en campagne. L'équipe de Christophe Cachilli entame en fin d'après-midi sa préparation en vue du prochain championnat de Promotion League de football. Le FCC a terminé 9e au terme de la saison écoulée alors qu'il était néo-promu. Le club chaux-de-fonnier a donc parfaitement tenu son rang. C'est pourquoi l'entraîneur Christophe Cachilli n'a pas cherché à chambouler son effectif durant l'intersaison. 4 nouveaux joueurs toutefois ont rejoint la formation chaux-de-fonnière. Mehdi Chaland, Mylord Kazay, Valentin Ayot et Bertrand Nzomo. Ce dernier milieu de terrain de 31 ans, joué au FC Le Mans, Christophe Cachilli estimait avoir besoin de ce joueur très athlétique et expérimenté.
C'est un joueur atypique, c'est un milieu défensif, pas forcément très grand, mais très imposant, avec beaucoup de caractère, beaucoup de charisme, et aussi une grosse VMA parce qu'il court un peu partout. Il a été capitaine partout où il est passé, c'est un joueur d'expérience, c'est le profil que je voulais. Donc quand j'ai appris que Le Mans avait des difficultés, j'ai sauté sur l'occasion, on s'est rencontrés très rapidement et on a tout de suite eu un bon feeling, lui et moi. Donc voilà, je me ravis et je sais que tout le monde est ravi de l'accueillir chez nous.
Un joueur avec une présence physique, il faut de la présence physique, c'est important.
Ah ben on l'a appris à nos dépens justement au premier tour la saison dernière. Le foot, c'est pas uniquement l'utilisation du ballon, l'aspect technique ou tactique. Il faut aussi se rendre compte que ce championnat est très exigeant physiquement parlant, notamment en Suisse alémanique. Donc il faut, avant de pouvoir installer son jeu, répondre présent dans le défi athlétique. C'est un joueur qui nous permettra d'évoluer dans ce registre-là.
Des propos recueillis par Marcel Neuschwander. Le FC La Chaux-de-Fonds entamera le championnat de Promotion League le mercredi 2 août à l'extérieur contre le FC United Zurich avant de recevoir Breinterein le dimanche suivant. Le premier match amical est agendé le 8 juillet à Yverdon. Le maillot jaune de la Raiffeisen Trans VTT se joue ce soir à Beauvais. Les VTTistes se mesureront sur un parcours de 16 250 km pour 415 mètres de dénivelé, tracé principalement dans la forêt de Bellevue. Départ à 19h à la Rouvray, l'arrivée est jugée au même endroit. Au classement général, David Gisling précède Jérémy Huguenin de 39 secondes. Chez les dames, l'affaire paraît classée. Florence Darbelay compte plus de 2 minutes d'avance sur Christelle Baumann. Résultat interview dans nos rendez-vous d'information demain matin.
12h28 sur RTN. Allez, je vous le vends à 29. Vous l'avez bien compris, on vous l'annonce depuis quelques jours, la fin de la semaine s'annonce perturbée avec aujourd'hui un temps un peu à deux vitesses, une belle matinée et puis un début d'après-midi qui pourrait se voiler avec l'arrivée des premières pluies en fin de journée, éventuellement des orages. Les températures en baisse, 18 à 23 degrés au maximum aujourd'hui. Demain, on repart avec un temps souvent nuageux et quelques averses. Le vent sera présent. On nous annonce une petite amélioration, mais très courte, pour vendredi. Avec un temps normalement sec, 18 à 22 degrés pour le week-end. On repart avec de la flotte et des températures qui devraient se situer aux alentours des 20 degrés.